c'est une erreur de penser que, comme ça, il y a des hasards qui tombent du ciel. Non, il y a tout un travail militant qui a déjà été mis en place à partir même de janvier 2025. On a notamment, par exemple, au sein du collectif Nourrir, qui regroupe plus de 54 organisations, dans lesquelles on va retrouver la Conf Paysanne, on va retrouver la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, on va retrouver des assos environnementales, on va retrouver des associations de solidarité Nord-Sud, etc. Bon, on va avoir un travail qui a été initié dès janvier, personne n'en parlait, mais qui va commencer à irriguer, etc. Tu as parlé de printemps bruyant, même si c'était assez confidentiel l'an dernier, mais la loi du plomb est évoquée chez les réseaux militants, etc. C'est pas le grand public, mais ça commence à être là. Sans ce travail de l'ombre, on n'arrive pas en juillet. On vit tous et toutes ce travail de l'ombre, militant, de fourmi. Il est nécessaire, essentiel. Qu'est-ce qui s'est produit après? C'est commencé à monter. Je pense qu'il y a un autre ingrédient très important, c'est la question des alliances, des convergences, des compositions, on utilise le terme qu'on veut, où on va voir au-delà déjà des mouvements et des associations un peu traditionnelles mais qui sont assez diverses, on va voir arriver toutes les associations de victimes, Cancer Colère, le collectif des victimes de pesticides de l'Ouest, Phytovictimes, etc., etc. On va avoir Coadep, etc., qui vont tous se mettre en mouvement. On va avoir des chercheurs et des chercheuses qui vont sortir de l'ombre ou en tout cas de leur habituelle réserve, parce qu'ils en ont aussi marre que tout leur travail scientifique soit dénigré, etc. Mais ça va peser. On va avoir des institutions. Alors on a parlé du CNRS, on a parlé tout à l'heure de l'Ordre des médecins, etc. Tout ça va peser. On va avoir même, et c'est pas habituel pour nous qui militons depuis longtemps, de voir les mutuelles qui vont se mobiliser. Le puzzle qui est en train de se constituer et qui va faire que, pas toujours tous ensemble et tout ensemble, mais avec nos manières de faire, ce mouvement va commencer à prendre de l'ampleur. Et puis la mobilisation, elle a existé au mois de juin. Elle n'était pas dans la grande presse, mais 30 juin, 10 000 personnes qui se réunissent. La semaine d'après, il y a plus de 100 rassemblements en France qui sont organisés. Ça montre un ancrage. La presse quotidienne régionale qui commence à en parler. Et puis, il y a un autre ingrédient, c'est l'incarnation. Alors, c'est fleurs, c'est cancer colère, etc. C'est cette image aussi très forte au Parlement. Il n'y a pas un ingrédient qui est déterminant. Il y a besoin de tout. Et c'est aussi un des enseignements qui est très important. On a besoin de l'alliance et de la composition. On a besoin du travail militant. On a besoin de l'incarnation pour ne pas être que dans théorie. Ça veut dire que des organisations comme Greenpeace, parfois, il faut apprendre à se taire, à se mettre derrière, etc. Avoir tout ça en tête, et puis peut-être aussi se dire qu'on est plus nombreux et nombreuses que ce qu'on pense. Voilà. Ah ouais, et puis on allait cliquer là, on voyait ça montait, et puis tout le monde qui en parlait, et puis les boucles familiales qui renvoyaient la pétition, alors qu'on ne discutait pas forcément toujours, on ne discute pas toujours politique en famille. Et c'est là où on voit qu'il y a un événement social. Je pense que ça doit nous donner de la force, parce qu'en ce moment on en a besoin, on ne va pas se cacher que voilà, sur plein d'autres combats, c'est dur. Donc il faut enregistrer aussi ça. Il y a des suites à construire à partir de ces enseignements, en évitant toute idée qui est une recette magique. Il faut toujours qu'on réinvente des choses, ça sera toujours nouveau, etc. Mais on a ces éléments-là. Sur la LUA, il y a des enjeux, là bien sûr, à travailler assez rapidement et à voir comment on arrive, suivant nos points d'accroche différents, à composer ensemble pour faire échouer ou l'enliser. Parce qu'on ne va pas se cacher que le rapport de force à l'Assemblée nationale, et encore plus au Sénat, il n'est pas tout à fait favorable. Donc on peut se dire on va construire un rapport de force, etc. Mais on a vu même sur la loi du plomb que franchement, il s'assoit dessus. Donc il va y avoir aussi, il y a besoin de l'information, de la mobilisation populaire, et puis de stratégies peut-être d'enlisement. Là, c'est plutôt des ONG qu'on... Et puis les élus, on va essayer de voir comment ils vont faire. Ils ont pris un risque, hein. Au départ, ça devait être une loi hyper resserrée, très réduite, et puis là, il y a plus de 23 articles, ça prend dans tous les sens, ça va être la fête pour le RN et LR qui vont en rajouter dans tous les sens, etc. Ben, peut-être que c'est un risque que le Cornu a pris. En tout cas, il faut tout faire pour que l'ampleur de cette loi la conduise à la poubelle. Ils n'arrivent pas à gérer dans un temps très contraint. Ils ont un temps très contraint parce qu'il y a plein d'autres choses dans le Parlement, et puis à partir de septembre, il y aura le budget qui va revenir, et après la présidentielle, etc. Donc, ils sont un peu sous pression de faire passer un truc. Et très clairement, entre nous, on est nombreux à pas comprendre pourquoi il a ouvert tant de dossiers dans cette loi. Au début, ça devait être juste l'eau, le loup et les moyens de production. Puis en fait, il ouvre à plein d'autres choses. Donc ça veut dire plein d'amendements, donc un texte long à rallonge. Bah, peut-être qu'on va s'en servir. Il y a l'omnibus, bien sûr, qu'il va falloir mettre à mal. Il y a une coalition qui existe. Pour l'instant, tout n'est pas en place, y compris, et c'est compliqué entre les États, etc. C'est un combat internationaliste avec les autres pays en Europe, etc. Et puis, pour nous, à Greenpeace, et je pense qu'on le partage, avec Cancer Colère, mais avec beaucoup d'autres, nous, notre volonté, c'est que 2026-2027, on arrive à mettre à l'agenda nos sujets. Ça va être que les mouvements sociaux et environnementaux et écologistes surgissent dans le débat, qu'on ne soit pas spectateurs et spectatrices, et qu'on fasse en sorte qu'on parle moins d'immigration, d'islam et compagnie, mais plus de santé environnementale, changement du modèle agricole, etc., d'écologie protectrice, une écologie désirable, etc. Là, il y a un vrai enjeu à réfléchir ensemble, à voir comment on met à l'agenda cette écologie protectrice des ressources, de notre santé, du travail et des travailleurs et des travailleuses aussi, et des questions sociales et des luttes contre les inégalités. Ça se fera avec toutes ces coalitions du plomb. Nous, on va aussi essayer de faire le lien avec dans un autre cadre, c'est l'Alliance écologique et sociale, avec la Conf Paysanne, avec l'Union syndicale solidaire, avec la FSU, enfin voilà, aussi avec des organisations de travailleurs et de travailleuses, pour essayer d'avancer des propositions et d'avoir une contribution qui soit aussi de notre contribution de lutte contre l'extrême droite et l'extrême droitisation de la société. Ça participe aussi de faire advenir nos propositions et de reprendre l'offensive. Voilà. Et on a besoin de s'appuyer sur ces dynamiques positives.
Quand on regarde un petit peu la presse, la télé, tout ça, on a un peu l'impression d'être peu nombreux. En fait, non, on est nombreux et c'est important de l'avoir en tête. Il y a pas mal de monde dans un état de sidération. Et en fait, c'est normal aussi parce qu'il y a tellement de violence en ce moment qui s'exerce sur nos mouvements, sur les idées, sur les textes, tout ça. Enfin, moi, je vois beaucoup de gens qui sont dans un état de sidération au fond d'un canapé qui me disent « Mais là, on s'en prend tellement plein la gueule, en fait, on ne sait plus comment réagir. Voilà, on va tous trouver dans un régime d'extrême droite. Enfin, » Mais moi, vraiment, j'entends des trucs de gens dont j'aurais jamais pu penser qu'ils auraient pu arriver dans cette phase-là, quoi. Et oui, il y a des gens qui sont en phase de sidération. Donc la question, effectivement, c'est d'aller les chercher, de leur dire « Non, vous n'êtes pas seuls, on est tous ensemble et tous ensemble, on va y arriver. » Et donc, pour ce faire, en fait, je voulais donner une petite astuce de Fleur Breteau, idée de génie. Nous, on a été 2 100 000 à signer cette pétition, sans compter ceux qui n'ont pas réussi à aller sur le site de France Connect et tout, mais on va dire 2 millions. On a conscience qu'en fait, tout le monde n'a pas le temps, l'énergie, ou pour plein de raisons, ne peut pas militer quotidiennement. Mais si ces 2 100 000 prennent une journée, juste une journée, avant les élections présidentielles, pour militer, essayer de faire avancer la cause, ça peut être génial. Donc essayez de propager l'idée, juste chacun de signataire passe une journée à la cause. Une idée.
Comme les mauvaises herbes entre les failles du goudron, comme les ronces des friches qui défient le béton. Ce qui repousse partout ne peut être dissous, ce qui repousse partout ne peut être dissous. Comme les hirondelles qui s'élancent au printemps, comme les pavés rebelles qui débordent d'élan. Ce qui vole de partout ne peut être dissous, ce qui vole de partout ne peut être dissous. Comme un coup de scalpel qui débâche en secret, comme certains tractopelles se retrouvent amputés. Ce qui sabote partout ne peut être dissous, ce qui sabote partout ne peut être dissous. Comme les chansonnettes qui fleurissent en riant, comme ma mère sous la douche qui se prend pour Céline Dion. Ce qui chante de partout ne peut être dissous, ce qui chante de partout ne peut être dissous. Comme un pas de scotiche en pleine garde à vue, comme une valse en manif au milieu de la rue. Ce qui danse partout ne peut être dissous, ce qui danse partout ne peut être dissous. Ce qui danse partout ne peut être dissous, ce qui danse partout ne peut être dissous.
Ce qui repousse partout, extrait du disque L'eau qui mord. Avant de passer aux questions du public de cette table ronde politique de l'eau du 28 mars 2026.
La problématique du changement climatique n'a pas été abordé, j'ai l'impression que c'est encore pire que ce que vous nous dites, quoi.
La docteure Anne-Morwenn-Pastier, hydrogéologue.
Alors je vais essayer de pas déprimer toute la salle. Le réchauffement climatique par rapport à la perspective sur le cycle de l'eau. Alors on entend tout et n'importe quoi. On entend, vous inquiétez pas, il pleuvra plus en hiver et moins en été, on va faire des bassines, tout ira bien. En fait, on sait que les modèles climatiques donnent des grandes tendances sur des grands espaces. Il faut imaginer que la France, c'est 4 pixels, quoi, dans l'image, au final. C'est vraiment dur d'avoir des images précises. Nous, on est dans une zone, vraiment, où c'est très dur d'avoir des projections climatiques. Il y a des modèles qui disent qu'il pleuvra plus en hiver, il y a des modèles qui disent qu'il pleuvra moins, il y a des modèles qui disent qu'il pleuvra pareil. Aujourd'hui, il n'y a personne qui peut dire comment va vraiment évoluer le climat sur l'Hexagone. Quand on commence à dire ça aux politiques, ils nous disent « Oh, bah alors il y a de l'incertitude, vous ne pouvez pas nous prédire exactement ce qui va se passer, donc on ne vous écoute pas. » Bah quand même, on peut affirmer des choses, et ce qu'on peut affirmer, et moi ce qui me fait très très peur, c'est pas la tendance, c'est pas la moyenne, c'est vraiment comment ça devient de plus en plus variable, de plus en plus aléatoire. Ce qu'on voit qui manque dans les modèles climatiques, on va dire que la conséquence, c'est qu'on ne voit pas comment les cycles vont être déréglés. En fait, on le voit depuis au moins 2022. Ce qu'on voit surtout, c'est des anomalies. C'est qu'on passe du chaud au froid, du sec au très humide. Avec le réchauffement climatique, ça va devenir de pire en pire. On sait qu'on va se taper des années d'inondations et des années de sécheresse. On sait qu'on va avoir 2 mois sous la flotte, et ensuite 6 mois sans rien. Le printemps dernier, il n'a pas plu pendant 2 mois. Les nappes se sont vidées immédiatement. Donc on est très très vulnérable à ces aléas, à cette variabilité qui augmente, mais beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Il y a cette accélération, il y a certains phénomènes, on disait oh, ça c'est pour 2100, finalement c'est 2050, finalement on l'a observé en 2022. Ma grosse crainte, et je ne suis pas la seule, hein, vraiment, c'est ce côté incertain, aléatoire, où les politiques ne veulent rien voir. Ils disent, nous, on veut votre travail, il n'est pas assez sérieux, on veut des projections solides. Mais en fait, quand on regarde, il y a plusieurs sources d'incertitude au niveau des projections. Il y a la variabilité du climat, il y a l'incertitude des modèles, et puis après, il y a l'incertitude politique. C'est ce qui fait diverger les courbes énormément. La plus grosse source d'incertitude, c'est nos scénarios, combien de pétrole on va sortir, comment on va continuer d'aménager le territoire. Voilà. Et on devrait être capable de faire une politique de l'incertitude, de se dire, au niveau de la gestion de l'eau, ce qu'on essaye de voir avec les fameuses études HMUC, c'est combien au maximum on peut sortir des nappes tous les ans. Il faut passer à un mode de gestion où on se dit, c'est quoi le minimum qu'on a besoin de prendre? Qu'est-ce qu'on peut laisser dans les nappes? Parce que si ça se trouve, l'hiver prochain, elles ne sont pas rechargées. Désolée pour le cauchemar.
Question vis-à-vis de la gouvernance de l'eau, étant donné qu'il y a beaucoup d'élus qui vont partir des clés et d'autres qui vont arriver, est-ce que le politique est formé à ces questions-là ou non? Et si c'est le cas, qui s'occupe de former les politiques? Est-ce que des collectifs ou des ONG s'en occupent?
La réponse, elle pourrait être vachement rapide, en fait, c'est non. Mais à nous de mettre en place ces sujets-là. J'ai en mémoire quand même l'intervention d'une personne de la DDT 86 qui dit en clé, va quand même falloir qu'on se forme. Elle voit autour de la table qu'il y a des gens qui sont au courant de pas grand-chose, mandatés par d'autres élus qui sont élus dans la communauté de communes et puis qui vont aller s'installer là, quoi. Après, il y a aussi quand même des gens qui sont à la tête de syndicats de rivières, qui font de l'entretien de berges, qui font de la renaturation, qui font de la restauration de cours d'eau. Ces gens-là sont au courant, ils savent de quoi on parle. L'État, les représentants de l'État, moi j'en rencontre qu'une, elle est pas mal. Elle est même carrément dans une posture justement de formation du groupe, mais pour d'autres, ils sont franchement pro-irrigants, quoi. Donc leur formation est déjà faite. Voilà.
Juste sur la position que j'aurais tendance à défendre sur la question de la formation des élus, ça serait presque de dire que c'est bien que ce soit des élus qui ne soient pas formés. Il faut se méfier de ces élus qui disent « oui, mais moi j'ai une spécialité, je connais très bien la question de l'eau ». Mais en fait, ce n'est pas ton rôle. Il y a des représentants de l'État, des DT, des techniciens, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se former, qu'il ne faut pas être formé au fur et à mesure, mais ils ont une fonction politique de réponse et de garantir l'intérêt général. Et donc, ce n'est pas des techniciens. Parce que qu'est-ce qu'on voit ? C'est que ceux qui vont se précipiter sur ces postes, on en a beaucoup qui sont téléguidés par la FNSEA, téléguidés ou en lien. Ils disent « Ah, mais moi, je connais bien la question de l'eau, j'ai une vraie expérience, je connais, en gros, je suis irrigant, etc. » Mais en fait, ce n'est pas ça ce qu'on te demande. Encore une fois, la question technique dans les commissions locales de l'eau, elle peut être apportée et conseillée, et il peut y avoir des temps de formation, il faudrait qu'il y ait des temps de formation par les directions techniques adéquates, les associations, etc. Mais bon, ce qui vaut pour l'eau vaut pour plein d'autres choses. On ne veut pas des élus qui soient des techniciens. Sinon, ça, c'est de la technocratie et ce n'est plus la démocratie. Par exemple, la FDSEA en Bretagne envoie le message en disant « Voilà, on a gagné un premier round sur la Vilaine. Il va falloir aller voir tous les élus là et nos amis, nos sympathisants. Il faut les convaincre d'aller prendre les places sur la question de l'eau. » C'est explicite. C'est une stratégie que nous, on a pointée dans le rapport, mais ils le disent, ils l'assument, etc. Nous, de notre côté, il faut aller convaincre des élus qui ont le souci de l'intérêt commun et rassurer les gens en disant « Ok, tu connais rien à la politique de l'eau. » Tu vas lire le rapport de la Conf qui est très bien, le rapport de Greenpeace, et on va t'aider, etc. Juste si tu as envie, vas-y. Et sur la composition, c'est en pourcentage, c'est pas en nombre, ça dépend des commissions locales de l'eau en général, et puis de leur. Voilà, la commission locale de l'eau de la Vilaine, elle est vraiment très importante. Il y a vraiment, en gros, il y a 20% usagers non économiques, c'est plein d'associations. Et 20% d'usagers économiques, ça, on va retrouver des industriels, on va retrouver des agris, etc. Ça va beaucoup dépendre aussi de la situation économique du coin. Hein. Voilà, il y a des endroits où il n'y a pas d'industriels, d'autres, voilà, dans le nord, il peut y en avoir. 40% enfin, des élus, collectivités territoriales, et 20% de représentants de l'État et de ses établissements publics. Et c'est des fonctionnaires.
Est-ce que des fois, on ne rend pas service à l'État quand on met tous ces petits grains de sable qu'on fait les uns les autres? Ils ne dépensent pas d'argent pour construire des bassines et ils nous font porter le chapeau.
Moi, je pense pas parce que, en fait, des deux côtés, il y a cette stratégie de la montre, de gagner du temps. Et bah, mine de rien, avec nos grains de sable, dans le Clin, aucune bassine construite pour l'instant. Oui, ça fait un peu le jeu de la propagande d'État d'alimenter ce faux clivage écolo-agri. Mais du coup, je pense que la solution, c'est plus comme ce qu'on essaye de faire. D'expliquer que c'est pas nous qui votons le Mercosur, que c'est pas nous qui achetons les matières premières à trois fois rien, donc c'est pas nous qui sommes responsables. Ah non, moi je vais continuer de lui mettre des grains de sable et puis ils pourront se servir de ça pour alimenter leur propagande. À mon avis, il y a un moment, c'est en train de se fissurer les différences entre les gros et les petits irrigants. Enfin, leur bloc se fissure quoi. Ils commencent à le voir que la grande majorité, que c'est pas nous qui allons. Les empêcher de transmettre leurs terres, par exemple, à leurs enfants, c'est leur voisin qui va les racheter. Quoi. Donc non, continuons de mettre des graviers, des grains de sable, des galets, des blocs, tout ce qu'on veut. Quoi.
Oui, puis du coup, on leur fait même perdre de l'argent. Quoi. Enfin, clairement, ça coûte tout ça, des projets qui prennent du retard comme ça. En Charente-Maritime, là, du coup, ça fait des années et des années donc, qu'ils étudient des projets de stockage, donc qu'ils ont envie de les mettre en place. Ça avait coûté 1,2 million d'euros d'études, rien que d'études, quoi, pour rien. Donc, c'est plein de thunes, en fait, par-ci, par-là, et ça fragilise leur modèle économique aussi, quoi. Et donc, il y a un moment, en fait, les agriculteurs... ça fait plus de 10 ans, en fait, qu'on essaye de mettre des projets de stockage, et puis on n'y arrive pas, mais les agriculteurs sont toujours là. Les agriculteurs sont toujours là alors qu'il n'y a pas de méga-bassine. Donc c'est bien la preuve qu'on peut faire sans méga-bassine. Si ça n'avançait pas, les agriculteurs allaient se détourner des projets de stockage. Donc on est là-dedans, donc voilà, allons-y. Merci à vous.
Quel est le mal appris qui a tout pris l'eau du dessous, dénudé sans un sou? Il faut sauver l'eau à tout prix. Et si l'idée coulait de source, et si l'idée coulait de source. Jusqu'à la dernière goutte, ce sont nos mares qu'on assassine. Pas à pas, goutte à goutte, laissons le chêne prendre racine. Et si l'idée coulait de source, et si l'idée coulait de source. Nous ne rattraperont ni la petite ni l'eau vive. Si les ruisseaux s'en vont avant que les enfants les suivent. Et si l'idée coulait de source, et si l'idée coulait de source.
Encore une chanson extraite du disque « L'eau qui mord » avant de poursuivre avec cette autre table ronde organisée par le collectif Bassine Non Merci. C'était le samedi 28 mars 2026 à Mel, pas très loin de Sainte-Soline, toujours autour de la politique de l'eau avec des politiques, des élus donc. À nouveau Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime, et Clémence Guettet, députée France Insoumise de la 2e circonscription du Val-de-Marne et vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Bon, mes premiers mots vont pour les organisateurs de ces journées, parce que ça se fait dans un contexte de répression, de surveillance, d'intimidation auquel il faut pouvoir résister. Je veux leur dire merci de à la fois permettre un rassemblement symbolique pour celles et ceux qui partagent le trauma de Sainte-Soline de la manifestation d'il y a 3 ans, et puis aussi un rassemblement sur le fond, parce que cette lutte contre l'accaparement de l'eau par quelques-uns, évidemment, elle continue. J'ai envie de dire qu'elle est même plus que jamais d'actualité. Donc moi, je représente la France Insoumise. On était 7 députés de la France Insoumise à Sainte-Soline il y a 3 ans. Face à un déferlement de violence, face à un usage disproportionné de la force, face à des gestes illégaux de la part des forces de l'ordre, face à un dispositif largement disproportionné qui ne répondait en rien à une quelconque menace qui viendrait en face, on a fait ce qui était attendu de nous, c'est-à-dire essayer d'user de ces écharpes qui sont les nôtres pour protéger au mieux des gens qui étaient en danger de mort, en réalité, à ce moment-là. 4 blessés très graves, je le rappelle. Et puis quand même, moi j'ai vu des dizaines et des dizaines de jeunes arriver ensanglantés, blessés, meurtris souvent pour toute une vie, arriver derrière ce cordon qu'on essayait de former à quelques élus et à plein de camarades qui n'ont pas ces écharpes et qui ont pris eux aussi évidemment tous les risques à ce moment-là. Voilà, il me semblait que c'était important d'être là symboliquement pour marquer la continuité de notre engagement. Après Sainte-Soline, en 2023, moi j'ai défendu une loi à l'Assemblée nationale lors de notre journée de niche parlementaire avec la France Insoumise qui exigeait un moratoire sur les méga-bassines, parce qu'on sait qu'ici il y a une lutte, une résistance très forte. C'est le cas aussi dans la région de Clermont-Ferrand où je suis allée. Mais malheureusement, c'est bien un modèle pour tout le territoire national, ces ouvrages de stockage d'eau. Et cette multiplication absolument insensée, débridée, sans aucune perspective d'aménagement du territoire, et encore moins de gestion raisonnée de la ressource en eau face au changement climatique et à ce qui nous attend. Donc en fait, ici, c'est un lieu où ça résiste, mais malheureusement, on parle vraiment d'une politique menée au niveau national. Bon, on s'est fait balayer sur la loi à l'Assemblée nationale, parce que malheureusement, l'hémicycle est composé de forces réactionnaires sur tout un tas de sujets. Mais sur la question écologique, de gestion de l'eau, sur les pratiques agricoles, on fait face quand même à un mur idéologique très fort avec des gouvernements macronistes qui, je dirais, dans leur rythme de succession rapide, se font encore plus bornés au fur et à mesure. Madame Genevard en étant un exemple parmi tant d'autres, ils sont une continuité. Dernièrement, avec Benoît, avec tous les autres à l'Assemblée nationale, je le rappelle, on a eu à lutter et à essayer de nous opposer à la loi du plomb, à la loi du plomb 2. Et là, d'ici une quinzaine de jours, nous arrive une loi dite d'urgence agricole. Mais dans cette loi d'urgence agricole, il y a une dérégulation totale, justement, de toutes les autorisations environnementales, procédures de concertation, réunions publiques des citoyens, face à la construction et la généralisation de ces ouvrages de stockage d'eau. Donc on a encore du travail, on le sait. On sait aussi qu'on est minoritaire. Mais malgré tout, je crois qu'on occupe une place importante pour montrer qu'un autre modèle serait possible, montrer que, surtout, en fait, c'est notre avenir commun qui est en jeu, qu'il s'agit de défendre l'intérêt général, c'est-à-dire que la COP de l'eau ici est paroxystique de l'accaparement par quelques-uns, et notamment par quelques agriculteurs, au détriment de tous les autres, citoyens, citoyennes, habitants, habitantes, mais aussi une très large majorité d'agriculteurs et de paysans, paysannes. On a l'impression parfois de prêcher un peu dans le désert, mais moi, à chaque fois que je reviens ici, je me dis qu'on a des points d'appui d'abord, qu'il y a des gens qui luttent, qui parfois y ont dédié une énorme partie de leur existence. Et puis surtout, je crois aussi dans la conscience collective, dans quelques ouvrages symbolique mais très important de méga-bassines qui ont été interdites par la justice, qui sont bloquées, dont les chantiers s'enlisent, etc. J'y vois aussi des victoires potentielles. La Macronie n'est pas là jusqu'à l'infini. Une autre politique de gestion de l'eau est possible. À l'Assemblée nationale, j'ai aussi déposé 2 demandes de commission d'enquête sur ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Quels ordres ont été donnés, quelles responsabilités politiques doivent être engagées, celles de M. Darmanin en premier lieu, mais toute la chaîne de commandement qui en découle. Mediapart nous prouve que des images, et notamment des caméras piétons, montrent des gestes interdits par des gendarmes, par des policiers, par les forces de l'ordre de manière générale, montrent la violence verbale, l'intentionnalité dans la volonté de blesser, de meurtrir, voire de tuer, puisque ça a été dit dans les images dont on dispose, et pourquoi l'IGGN et l'IGPN, les instances dites de contrôle de la police et de la gendarmerie, qui sont elles-mêmes la police et la gendarmerie, n'ont rien fait de ces images en plus de 3 années. Donc voilà, on continue de mener par tous les moyens qui sont à notre disposition, comme parlementaire, le combat, comme militant insoumis, puisque je représente aussi un mouvement politique, à être aux côtés de celles et ceux qui luttent dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres. À Clermont, j'en ai parlé, mais partout dans le pays. Voilà.
Julien Leguet, co-porte-parole de Bassines Non Merci.
La lutte contre les méga-bassines, on est clairement face à un rouleau compresseur. Un capitalisme triomphant qui n'a pas de frontières et qui sait très bien mettre toutes ses forces dans la bataille. Au sein de notre mouvement, et on partage ça avec les soulèvements de la terre, on parle de composition. La composition, c'est faire avec toutes les forces en présence, avec toutes nos différences et avec nos capacités et notre culture. Face à ce rouleau compresseur, c'est tous nos savoir-faire qui sont à activer. Et que donc ce travail qui est fait devant l'Assemblée nationale, il est complémentaire du travail qui est porté par des associations de protection de la nature comme Nature Environnement 17 qui va gagner devant les tribunaux et que ça c'est complémentaire de tout ce mouvement populaire, toute cette mobilisation qui vient mettre en exergue les problématiques et qui font que les décisions de justice elles sont prises avec sérieux là où quand c'est pas identifié, ben, il y en a plein hein, des scandales, des projets qui n'auraient jamais dû voir le jour mais juste ça passe zoom zoom, il n'y a pas de visibilité, ben, ça passe quoi. Là aujourd'hui on peut être sûr que le moindre projet de méga-bassine il est scruté très 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 attentivement. Et notamment, c'est un enseignement de Sainte-Soline, on est nombreux à avoir été très choqués. Et comment on continue à lutter dans ces conditions-là? Quelle place on trouve dans les mouvements? Ben, il y a un truc qu'on a bien compris, il y a de la place pour tout le monde, il y a plein de modalités d'action. Il n'y a pas un rôle qui est plus vertueux que l'autre, il n'y a pas d'héroïsme. Faire à manger pour toute l'équipe, gérer des cantines, brasser des tas de compost, faire front en noir ou en bleu aux forces de l'ordre, l'ensemble contribue de la résistance.
Merci Julien.
Benoît Biteau.
La preuve qu'on peut être élu et militant, qu'on peut être élu et engagé. Nous, à l'Assemblée nationale, on est minoritaire. Mais ce n'est pas parce qu'on est dans une assemblée où la majorité se fait avec d'autres logiciels, d'autres logiques que ce que nous, on défend, qu'on adhère à ce qui se passe. Et on est en résistance en vrai. On est des résistants. On est avec vous en résistance. Je reviens sur Sainte-Soline. Je peux vous garantir qu'il y a 3 ans, jour pour jour, ici, dans ce cinéma, lors de la conférence de presse du lendemain, il y avait une chape de plomb. Il y avait une chape de plomb et je peux vous assurer que ce n'était pas facile pour tout le monde, et y compris pour moi qui représentais les élus qui étaient présents à Sainte-Soline, que de débriefer un tel chaos, un tel massacre, un tel carnage organisé par l'État lui-même. Et ce qu'on a dû faire, ce qu'on continue de faire, c'est de remettre en haut du débat un débat de fond. C'est ce que disait Clémence à l'instant quand elle demande un moratoire sur les méga-bassines. C'est ça qu'on doit faire. Darmanin, l'État, a essayé de détourner l'attention sur de la violence qui ne venait que d'eux. Je rappelle quand même qu'on a déployé 3200 agents des forces de l'ordre pour protéger un trou vide. Un trou vide où il n'y avait rien à détruire. Un trou vide financé par 70% d'argent public. Et un trou vide, effectivement, illégal. Et c'est de ça que je veux vous parler aussi, parce que dans la résistance qui est la nôtre, nous les élus, si on veut retrouver aussi le partenariat fort qu'on doit constituer avec des collectifs, avec des associations, c'est d'être les relais efficaces de l'intérêt commun, du respect de l'état de droit. Et si je veux vous parler de l'état de droit, c'est que dans les jours qui ont suivi Sainte-Soline, les gens comme Clémence, comme moi, on a été contestés dans notre présence à Sainte-Soline, parce que, paraît-il, nous ne serions pas respectueux de l'état de droit à avoir manifesté sur une manifestation interdite.
Eh bien, moi, je veux, 3 ans après, vous interpeller sur ma conception de l'état de droit. Quand les scientifiques, tous les scientifiques un peu sérieux, nous disent que les méga-vaccines, c'est de la maladaptation, c'est pas la bonne réponse et qu'on va aggraver la situation, on est dans du technosolutionnisme qui n'est qu'une fuite en avant et qui nous emmène un peu plus vite dans le mur.